Vous êtes sur RTL.
RTL dimanche soir, Vincent Parizeau. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL dimanche soir, c'est parti jusqu'à 19h15, l'heure à laquelle vous referez le sport avec Isabelle Langer. À la une ce soir, toujours des questions et bien peu de réponses après la catastrophe de Séoul. 153 morts dans un mouvement de foule à l'occasion d'Halloween dans un quartier festif de la capitale sud-coréenne. Alors comment expliquer une telle catastrophe? Comment autant de personnes ont pu mourir dans une rue de 4 mètres de large? Les services de police sont-ils en cause? On va revenir sur le déroulé des événements. Sachez qu'un Français fait partie des victimes. L'actualité de ce dimanche soir, c'est aussi ce drame en Bretagne, à Carantec, où les corps des 4 membres d'une famille, parents et enfants, ont été retrouvés à leur domicile. Et puis à Marseille, l'enquête sur la mort d'un jeune autiste de 11 ans, tué à coups de couteau. Sa mère est en garde à vue. À la une d'RTL dimanche soir également, le deuxième tour de la présidentielle au Brésil. Lula est toujours donné favori face au sortant Bolsonaro. Mais maintenant, ce sont les urnes qui vont parler. Nous serons devant un bureau de vote à Rio avec la correspondante d'RTL. L'inquiétude de l'ONU après la décision russe de suspendre l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, ça aura des conséquences très lourdes pour des pays pauvres, par exemple l'Algérie ou l'Égypte, mais aussi une hausse des prix pour des pays comme la France. Vous entendrez les explications d'un spécialiste de ce marché des céréales. Nous irons à Strasbourg pour une nouvelle manifestation de soutien aux Iraniennes et aux Iraniens. À 18h30, le MacPol, comme chaque dimanche, avec ce soir le grand jury de Louis Alliot, le maire de Perpignan, candidat à la présidence du RN, avec un sondage qui rejoue la présidentielle 6 mois après. Deux gagnants, Macron, Le Pen, et un perdant, Mélenchon. Une immersion chez les écologistes encore sonnée par l'affaire Bayou-Rousseau. Et puis un invité, le journaliste Olivier Perrault, pour chercher le tueur du PS. Ça, ce sera après 18h30. Le sport, le foot, la 13e journée de Ligue 1. Cet après-midi, Auxerre a battu Ajaccio 1-0. Des matchs nuls entre Brest et Reims 0-0. Entre Nantes et Clermont 0-0 également. Victoire de Rennes face à Montpellier 3-0. De Monaco face à Angers 2-0. Et puis depuis 17h, Lorient affronte Nice. Dites-nous, Philippe Audouin, on en est où?
Eh bien, c'est la mi-temps. 1-0 pour Lorient. Étonnant, troisième du classement. Rappelons-le, Vincent. But inscrit à la 18e minute par le jeune attaquant breton, Dango Ouattara.
Merci, Philippe. On fera un nouveau point dans 20 minutes. Ce soir, à 20h45, ce sera Lyon-Lille que vous pourrez suivre dans RTL Foot avec Eric Silvestro et toute son équipe. Le quintet de Chantilly, 7, 9, 5, 3. Ah, et puis avant 19h, comme chaque dimanche, on refera la planète avec Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir.
Alors, encore un peu de douceur demain, mais ça va pas durer. Hein.
Non, alors pas toute la semaine, en tout cas, c'est sûr. On garde la douceur, on perd encore un petit peu de soleil. Le soleil qui va se retrancher sur les régions du flanc est, entre le Grand Est et la Méditerranée, sachant qu'il y aura quand même demain des entrées maritimes en Languedoc et en Roussillon. Et puis à l'ouest et dans le nord, bah, c'est un petit peu comme aujourd'hui. Pas mal de nuages, quelques averses ici ou là, très peu de soleil. Les meilleures chances d'éclaircies donc sur cette large moitié ouest iront du Massif central jusqu'aux Pyrénées. Les températures demain matin, 9 à 17 degrés de la Lorraine au midi toulousain. Dans l'après-midi, encore un bon 18 à Rennes, 20 degrés à Paris, 22 à Bordeaux et Montélimar, 23 à Besançon, 24 degrés à Marseille, 27 à Montauban. Température encore à peu près stable pour la journée de mardi avec une dégradation un peu plus sérieuse, celle-ci, qui va balayer la moitié nord du territoire. À partir de mercredi, on retrouve le soleil. Les températures repassent sous la barre des 20 degrés partout, en moyenne générale, aussi bien au nord qu'au sud. Et on va commencer à avoir un petit peu froid jeudi et vendredi. D'ailleurs, vendredi, figurez-vous qu'il va neiger un petit peu en montagne. Bon, tout en haut, d'accord, mais quand même.
Donc, on se prépare à ressortir les pulls et cette fois pour de bon, si je vous ai bien compris.
Alors, pour de bon, je ne sais pas. En tout cas, on les ressort en fin de semaine, c'est sûr.
Merci Valérie.
Vincent Parizeau. RTL dimanche soir.
153 morts, c'est donc le bilan de cette catastrophe d'hier soir à Séoul en Corée du Sud. Un Français figure d'ailleurs parmi les victimes de ce mouvement de foule, de cette bousculade gigantesque. Lorsque des milliers de personnes venues fêter Halloween dans ce quartier festif de Séoul se sont retrouvées littéralement, Bénédicte Tassard, pris au piège.
Oui, dès 19h, les personnes sont agglutinées dans cette ruelle montante de 4 mètres de large où arrivent tous ceux qui sortent du métro au point d'entrée de ce quartier. 21h déjà, le chaos. Deux policiers juchés sur leur voiture demandent à la foule de quitter les lieux. Ils sont inaudibles à cause de la musique qui sort des haut-parleurs. Des SMS d'urgence sont envoyés sur les portables. 22h20, début de la bousculade meurtrière. Premiers appels d'urgence, les personnes compressées jusqu'à l'étouffement, les jeunes qui tombent sont enterrés par la foule, comme le décrit un enquêteur. Écoutez Marie, étudiante française à Séoul.
On pouvait plus du tout marcher. Les personnes devant ont commencé à tomber un peu comme des dominos, sauf que les personnes derrière ne savaient pas ce qui se passait. Du coup, ils continuaient à pousser. Du coup, bah, les gens se marchaient dessus. Enfin, c'était du n'importe quoi. Tout le monde était affolé. Enfin, c'était un truc de ouf. C'est assez choquant et c'est émouvant.
Le personnel d'urgence, comme ce médecin, est débordé.
Au départ, il y avait deux personnes en arrêt respiratoire. Puis c'est monté à quatre, puis cinq. Ça a augmenté très vite et c'est devenu incontrôlable. Les sauveteurs faisaient du mieux qu'ils pouvaient, mais ils n'étaient pas assez nombreux. Alors, des citoyens qui se trouvaient aux alentours sont venus pour nous aider.
Au total, 300 personnes secourues pour des problèmes cardiaques. À 23h50, les ambulances et les pompiers de deux villes voisines sont appelés en renfort. 50 morts à 2h du matin, 153 au lever du soleil. Les corps des victimes décédées sont regroupés dans un gymnase. Le temps que les hôpitaux s'organisent, et c'est maintenant le choc, décrit par David-Pierre Jalicon, le président de la Chambre de commerce franco-coréenne.
Bien, cette journée a été sous le signe du recueillement, comme tout le pays. Hein, nous sommes complètement solidaires avec le pays dans l'épreuve et que malheureusement nous partageons, puisqu'il est confirmé qu'il y a un Français parmi les personnes décédées. Et on reste encore sous le signe de l'inquiétude, puisqu'il y a encore au moins une bonne dizaine de corps qui n'ont pas été identifiés.
Dans la ruelle, des bouquets de fleurs avec un ruban noir et blanc remplacent les linceuls bleu ciel.
Récit signé Bénédicte Tassard. On part maintenant dans les Deux-Sèvres. Après un samedi tendu et agité, vous le savez sans doute, hier dans les champs de Sainte-Soline à l'est de Niort, théâtre d'un rassemblement de 5 à 7 000 personnes opposées à un projet de bassine, le calme est quand même revenu. Je vous rappelle que la journée d'hier s'est soldée par une soixantaine de blessés chez les gendarmes, une cinquantaine chez les manifestants. Ce dimanche, d'ailleurs, la manifestation était toujours interdite. Mais des tables rondes étaient organisées, ainsi que des visites aux blessés. Et tout de même, un ou deux derniers coups d'éclat. Reportage Clara Etchari.
Opération éclair cet après-midi pour les manifestants et illégale, il faut le rappeler, ils ont coupé des canalisations qui devraient alimenter la bassine.
C'est de la tuyauterie, hein. Qu'on soit bien d'accord. Et on fait bien la différence entre le fait de menacer des gens, ce qui n'est absolument pas notre tasse de thé, et le fait de s'en prendre à des biens qu'on considère allant à l'encontre de l'intérêt général.
10 minutes de marche dans un champ, un coup de meuleuse sous les hurrahs, et puis s'en va. Les militants y voient là une vraie réussite.
Ce qu'on veut démontrer aussi ici, c'est que leur bassine, en dépit des moyens de police et de renseignement énormes qui sont mobilisés, elle est atteignable à tout moment et sans recours à la violence, en étant tout simplement malin, de manière à ce que l'eau du pompage là-bas ne puisse pas accéder à la bassine.
Des barrages avaient été établis sur la route en prévision, mais les 1600 gendarmes déployés aujourd'hui sont restés à distance.
Un reportage à Sainte-Soline, signé Clara Etchari, et un certain nombre de ces opposants envisagent maintenant d'installer sur place une ZAD, ce qu'on appelle une zone à défendre. On aura l'occasion évidemment largement d'y revenir, notamment demain matin dans les journaux d'RTL. Il est 18h08, on marque une courte pause. Dans un instant, on va en Bretagne avec ce drame familial, Carantec. À tout de suite.
RTL dimanche soir. RTL dimanche soir avec Vincent Parisot.
La commune de Carantec, station balnéaire hein, située en Benne-Morlaix, donc ce soir sous le choc, un couple et leurs deux enfants ont été retrouvés morts dans la maison familiale. Nicolas Bobby, vous êtes sur place pour RTL.
Le drame s'est noué dans une petite maison blanche au pignon décrépit à l'entrée de Carantec. La famille est décrite par les voisins comme charmante. Le corps de la maman, Florence, et celui des deux fillettes de 9 et 12 ans ont été retrouvés dans des chambres. Celui du papa Gaëtan, pendu au rez-de-chaussée. Le chien a également été retrouvé mort. Les riverains sont sous le choc.
C'est affreux. Ça laisse sans voix.
Un père de famille qui a perdu les pédales suite à peut-être une séparation qu'il n'a pas acceptée. Ça devait être quelqu'un en grande souffrance.
Oui, effectivement. Choqué, terrifié. Je m'en accrois. J'ai du mal à croire. Voilà, des gens comme tout le monde, quoi.
Le père avait travaillé pour une société de pompes funèbres. Le scénario du drame familial n'est pas encore confirmé. L'enquête est en cours. On ne connaît pas non plus l'arme utilisée.
Nicolas Bobby à Carantec pour RTL. Dans l'actualité également, toujours l'enquête sur la mort de Justine. On attend toujours les conclusions de l'autopsie et des analyses. On y reviendra dans le journal de 19h. À Marseille, les enquêteurs tentent toujours d'établir le scénario qui a pu conduire à la mort d'un enfant autiste cycliste de 11 ans. Son corps a été retrouvé hier sur les rives de l'Uvaune qui traverse la ville. La mère de la jeune fille est toujours en garde à vue, Manon Meyer.
Oui, la mère est en garde à vue depuis 24 heures déjà. Elle y a été placée hier en fin de journée. Elle devrait y rester encore pour les prochaines 24 heures. Alors si les soupçons se portent désormais sur cette femme de 39 ans, c'est que les enquêteurs ont trouvé des indices chez elle en passant le logement au peigne fin, en utilisant des lampes UV et des révélateurs. Les circonstances du drame restent encore floues. Certains parlent d'un possible acte de folie de la part de la mère envers son enfant souffrant d'autisme. Mais c'est elle qui avait signalé sa disparition vendredi. Le corps a été retrouvé maculé de sang hier vers 13h par le père et l'oncle du garçon dans des herbes hautes proches de la rivière Uvaune. Il portait la marque des coups de couteau et son visage était très abîmé. Des traces de sang ont aussi été découvertes non loin du corps, sur les berges. On ne sait pas encore comment ce garçon de 11 ans a fini là, tout proche d'un collège du sud de Marseille, et pourquoi il a été poignardé. La police judiciaire a été saisie et le parquet devrait bientôt communiquer sur le sujet. En attendant, la mère reste présumée innocente.
Manon Meyer à Marseille pour RTL. La multiplication de faits divers particulièrement marquants pour l'opinion, les drames de Lola, de Justine, mais aussi la tentation pour certains de se faire justice soi-même. Il en a été question à la mi-journée sur RTL lors du grand jury de Louis Alliot, le maire de Perpignan qui est candidat à la présidence du Rassemblement National. Il a ainsi été amené à réagir à l'exemple de Rouen où, vous le savez sans doute, un adolescent de 16 ans soupçonné d'avoir agressé sexuellement une fillette a été passé à tabac par le père de cet enfant ainsi que trois de ses amis. Louis Alliot a expliqué qu'il craignait une généralisation de ce type de réaction en raison, selon lui, de l'inaction de l'État.
Alors je les comprends. Quand vous avez une gamine qui est agressée sexuellement et que vous faites vengeance directement, c'est pas bien et c'est contraire à la loi. Pour autant, sur des cas similaires ou d'autres cas de violence, les gens ont été traduits en justice et n'ont pas eu grand-chose et ont même récidivé, c'est là qu'il faut se poser la question. Je crains la généralisation de la vengeance, je vais dire, personnelle, et je crains la généralisation de milices dans certains quartiers qui, eux aussi, vont remettre de l'ordre. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un bruit de fond qui dit « si la police n'y arrive pas, nous le ferons ».
Voilà, Louis Alliot, le maire de Perpignan, candidat à la présidence du Rassemblement National. C'était ce midi au grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Et bien évidemment, on y reviendra sur la partie politique de son intervention après 18h30 dans le MacPol. Il est 18h15. On marque une courte pause et dans un instant, nous serons au Brésil, à Rio, à l'heure du choix.
RTL dimanche soir. 18h-19h15, RTL dimanche soir. Avec Vincent Parizeau.
Au Brésil, les deux candidats à la présidentielle ont voté peu après l'ouverture des bureaux de vote. Si Dieu le veut, on va gagner ce soir, a lancé le président sortant Jair Bolsonaro après avoir mis son bulletin dans l'urne. De son côté, Lula, l'icône de la gauche, favori quand même de ce scrutin, a voté en exprimant sa confiance dans une victoire de la démocratie pour, je le cite, « restaurer la paix entre les Brésiliens ». On retrouve maintenant sur place, à Rio, la correspondante d'RTL. Bonsoir Sarah Cozzolino.
Bonsoir à tous.
Alors, vous vous trouvez en ce moment devant un bureau de vote de Rio, un bureau de vote qui se trouve dans un quartier où on trouve en fait des électeurs des deux camps, c'est ça?
Oui, je suis dans le quartier de Flamengo, dans le centre de Rio, et ici on voit des supporters des deux côtés. On croise beaucoup de familles qui vont voter avec des t-shirts rouges et des autocollants à l'effigie de l'ancien président Lula, mais aussi des habitants qui vont voter avec des maillots du Brésil en jaune et vert associés à Jair Bolsonaro depuis les dernières élections de 2018. On assiste parfois à des échanges de regards, de commentaires, mais rien de violent. Les bureaux de vote ouvrent de 8h à 17h. Et pour ce second tour, les choses sont un peu plus fluides. Il n'y a pas vraiment de queue devant les bureaux de vote, puisqu'à Rio, le gouverneur de l'État a déjà été élu au premier tour. Et c'est d'ailleurs un allié de Jair Bolsonaro qui a été élu. Selon les derniers sondages, Lula est à 52% et Jair Bolsonaro à 48%. On est donc sur un second tour très serré puisque la marge d'erreur est de 2 points. Et ça se sent devant le bureau de vote où je me trouve puisque dans les deux camps, les électeurs m'ont confié qu'ils voulaient croire en la victoire de leur candidat mais que rien n'était joué.
Voilà, chacun veut y croire, mais vous nous décrivez quand même une situation à peu près apaisée alors que pourtant, on le sait, hein, la campagne a été marquée par de fortes tensions.
Oui, effectivement, il y a eu plusieurs agressions, des assassinats politiques et aussi du harcèlement électoral dans les milieux professionnels, avec des vidéos qui ont circulé de chefs d'entreprise demandant à leurs employés de voter pour Jair Bolsonaro en leur promettant une augmentation si le président était réélu. En conséquence de ces tensions, le tribunal supérieur électoral a dû faire passer plusieurs décrets inédits interdisant notamment le port d'armes à proximité des bureaux de vote ou encore interdisant aux électeurs de se filmer en train de voter sur l'urne électronique. Car depuis le début de la campagne, Jair Bolsonaro remet en question le système électoral brésilien et menace de ne pas accepter le résultat en cas de défaite. Ses électeurs me confiaient ce matin qu'ils ne faisaient pas confiance aux urnes, argumentant que Jair Bolsonaro est une victime du système, victime de la Cour suprême et du Tribunal supérieur électoral. C'est d'ailleurs la première élection où l'armée brésilienne jouera un rôle d'observateur et devra publier un rapport à la fin du scrutin.
Merci beaucoup Sarah Cozzolino qui suit donc cette élection présidentielle au Brésil, ce deuxième tour et évidemment tous les résultats demain matin dans la matinale d'RTL.
RTL dimanche soir avec Vincent Parisot.
Sachez aussi que l'otage franco-australien qui a été enlevé hier au Tchad a été libéré. Il est en bonne santé, c'est ce qu'assure le Premier ministre tchadien cet après-midi. Il avait été kidnappé en fin d'après-midi hier près de la frontière du Soudan. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, reporte d'une journée son départ pour le sommet de la Ligue arabe à Alger. Explication, il veut pouvoir consacrer tout son temps à convaincre la Russie de ne pas suspendre l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Accord que Moscou, je vous rappelle, entend désormais suspendre après l'attaque qui aurait été menée par des drones sur sa flotte dans la baie de Sébastopol en Crimée annexée. Les exportations de céréales depuis les ports ukrainiens sont donc de nouveau impossibles en raison de ce blocus russe. Alors, quelles conséquences pour certains pays, mais aussi quelles conséquences pour nous? Écoutez Arthur Portier, il est consultant chez Agritel, spécialiste des céréales.
Vous avez des pays comme l'Algérie, comme l'Égypte qui vont être directement impactés. Et là, cette nouvelle de la part du Kremlin fait que les acheteurs internationaux devraient revenir vers de l'origine française pour s'approvisionner. Et automatiquement, dans ce jeu d'offres et demandes, ça va faire renchérir le prix du blé sur le territoire français.
Est-ce qu'on risque de manquer de céréales, nous, Français?
Nous exportons une tonne sur deux, mais on ne craint pas véritablement de pénurie sur le sol français grâce justement à notre productivité. Maintenant, en ce qui concerne le maïs, nous sommes importateurs de maïs en Europe et nous importons d'Ukraine. Si les flux sont stoppés, on ne va pas pouvoir importer du maïs de la part de l'Ukraine et ça va faire renchérir l'ensemble des prix des céréales, maïs, orge, mais également le blé.
Voilà, Arthur Portier, consultant chez Agritel avec Léonard Cassette. Après une journée de manifestation en soutien aux femmes et aux manifestants en Iran, hier samedi dans plusieurs villes de France, eh bien à Strasbourg, le collectif de soutien aux Iraniennes et aux Iraniens en révolte a décidé d'agir ce dimanche. Il faut dire que les forces de l'ordre étaient mobilisées hier à Strasbourg pour le football. Résultat, aujourd'hui, eh bien c'est une chaîne de plusieurs centaines de personnes qui s'est mise en place dans la capitale alsacienne, Yannick Collant.
Sur les quais de Strasbourg, une longue chaîne humaine reprend en boucle ce cri de ralliement des manifestations iraniennes. Sepi Devi vit en France depuis 27 ans, mais ses proches sont toujours là-bas, en Iran.
Ils disent que la répression est trop dure, mais on ira jusqu'au bout. On a tous un membre de famille qui est dehors, dans la rue. Soit on n'a pas de ses nouvelles, soit il s'est pris des balles à plomb. Enfin, voilà, toutes sortes d'atrocités, on est en train de vivre et c'est très, très difficile pour nous. Il y a trop de sang qui a coulé. Ce n'est plus possible de faire marche arrière.
Dans la foule, des femmes, des hommes, des enfants, toute la diaspora iranienne est là, mais aussi beaucoup de Français très touchés par ce qui se passe sur place, comme Corinne.
Ce qui se passe, c'est formidable, c'est d'un courage incroyable, quoi. Et moi, ce que je trouve formidable, c'est qu'il y ait soutien des hommes aussi là-bas. On espère vraiment que tout ça, ça va aboutir et que la répression va cesser là-bas parce que c'est affreux de tuer ses propres enfants, quoi.
Mais pour tous les manifestants, la même interrogation, est-ce que la pression internationale réussira à faire fléchir le régime de Téhéran ?
Un reportage à Strasbourg signé Yannick Collant. Et puis une manifestation était organisée aujourd'hui également à Berlin en soutien aux Iraniennes et aux Iraniens. Et on apprend que 3 hommes ont été blessés lorsque ces manifestants pourtant pacifiques ont été attaqués par des hommes masqués tout près de l'ambassade d'Iran. Des hommes masqués qui ont réussi à prendre la fuite. Avant de passer au sport, on va mettre un petit peu de piment dans cette actualité, mais au sens propre, parce que depuis 1969, c'est un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la gastronomie basque. La 53e édition de la fête du piment, le piment d'Espelette, évidemment, et ça se passe à Espelette. Il y a des centaines de producteurs qui sont présents, avec toujours l'appellation d'origine protégée piment d'Espelette, même si cette année, eh bien, les conditions météo et notamment la canicule n'ont pas vraiment été favorables à la petite corne rouge, Denis Grandjou.
Oui, c'est vrai, jamais un piment n'avait été aussi petit dans l'histoire du piment d'Espelette à la sortie de l'été. Heureusement, les quelques gouttes de pluie de septembre ont redonné le sourire au producteur Louis Pradille de l'atelier du piment.
Oui, ça a été très hétérogène cette année. Les parcelles qui étaient en bord de rivière donnaient un petit peu, mais sur les coteaux, ça manquait terriblement d'eau. Quand même, à cette période de l'année, la poudre encore qu'on a broyée ce matin était très fruitée, très parfumée. Donc pour l'instant, c'est très parfumé et assez piquant, assez relevé.
Espelette, toutes les maisons blanches du village ont accroché sur leurs façades et leurs volets les célèbres cordes de piment. Explication.
Mais tout simplement, hein, le système traditionnel pour sécher et conserver le piment, c'est la méthode ancestrale. Rien de plus simple, une ficelle, une aiguille, 20 piments, un peu de patience, de l'amour, beaucoup d'amour pour faire ces cordes.
Beaucoup d'amour et ça dure depuis très longtemps, des siècles. Et ce rendez-vous annuel depuis 1969, la fête du piment d'Espelette qu'on vous a fait vivre ce soir sur RTL. Allez, on passe au football avec la 13e journée de Ligue 1. Je vous rappelle les résultats de cet après-midi. La victoire d'Auxerre face à Ajaccio, 1-0. Le match nul entre Brest et Reims, 0-0. Un partout entre Nantes et Clermont. Les succès de Rennes face à Montpellier, 3-0. De Monaco face à Angers, 2-0. Et donc, depuis 17h, Lorient qui affronte Nice. Dites-nous, Philippe Audouin, on en est où?
Et Nice qui est revenu, hein, partout. Lorient qui menait 1-0 à la mi-temps. Et Nice qui vient d'égaliser par Attal qui s'est infiltré dans la surface de réparation lorientaise et qui a parfaitement croisé son tir alors que Lorient avait ouvert le score par Ouattara. À la 18e minute, les Bretons qui ont réussi 25 premières minutes de haute volée. Il a fallu plusieurs parades décisives de Schmeichel, le gardien niçois, pour éviter un plus grand écart pour les Azuréens. Et finalement, donc, Nice a profité d'une petite baisse de régime de Lorient à la fois en fin de première mi-temps et surtout en début de deuxième période pour revenir à un partout et il reste 25 minutes à jouer.
Merci beaucoup Philippe Audouin. De toute façon, on fera un dernier point à 19h dans le journal. Ce soir, le match donc du dimanche soir, évidemment, 20h45, Lyon-Lille. Rencontre que vous pourrez suivre en direct sur RTL, dans RTL Foot, avec Eric Silvestro et toute son équipe. À suivre sur RTL, le MacPol, toute l'actualité politique. Et puis ensuite, avant 19h, comme chaque dimanche soir, Alain Bougrain-Dubourg refera La Planète. À tout de suite.
RTL dimanche soir. RTL dimanche soir. Le MacPol avec Vincent Parisot.
Le MacPol, c'est le magazine politique de la rédaction d'RTL avec ce soir un sondage présidentiel, si, déjà, 6 mois après la réaction d'Emmanuel Macron, enquête IFOP pour le journal du dimanche, avec les mêmes candidats. Résultat, Le Pen qui grimpe, Mélenchon qui chute et Emmanuel Macron qui se tient bien malgré une période difficile. On y revient tout de suite. Le grand jury de Louis Alliot, le maire de Perpignan, candidat à la présidence du Rassemblement National, on va l'écouter et puis débriefer sa prestation avec ses intervieweuses. Les écolos, état des lieux après la tempête Bayou-Rousseau, évaluation des dégâts, RTL a enquêté au sein d'Europe Écologie des Verts. Et puis, question, mystère, qui a tué le Parti Socialiste? Le journaliste Olivier Perroux a mené l'enquête, il publie Autopsie du cadavre et il sera l'invité du MacPol.
Vincent Parisot, le MacPol sur RTL.
Un sondage présidentiel donc dans le journal du dimanche avec des résultats qui font d'ailleurs déjà beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Enquête IFOP, 6 mois après la dernière présidentielle, on a demandé aux Français pour qui ils voteraient si cette élection se déroulerait ce dimanche, c'est-à-dire avec les mêmes candidats qu'il y a 6 mois. Ça permet de mesurer l'évolution du rapport de force électorale à l'issue d'une séquence, on va dire, plutôt compliquée pour Emmanuel Macron. Et alors, le premier constat qu'on peut faire, Thomas Després, c'est que le président n'arriverait plus en tête du premier tour.
Exactement. Bonsoir Vincent. Si la présidentielle avait lieu aujourd'hui, c'est Marine Le Pen qui arriverait cette fois-ci en pole position. 30% contre 23,5% il y a 6 mois pour la candidate du RN. 6 points de plus, 6 points et demi de plus, donc face à Emmanuel Macron qui récolterait 29%. 6 points de plus, donc ça veut dire que c'est un petit peu mieux pour Marine Le Pen. Emmanuel Macron, lui, ne dégringole pas, mais il est désormais dépassé. Et c'est une situation inédite, puisque sur les 3 dernières présidentielles, 6 mois après, l'ordre des finalistes n'avait pas changé. Et on observe le même resserrement au second tour, puisqu'Emmanuel Macron ne l'emporterait plus qu'avec 53% des voix, là où il avait récolté 58,5% des suffrages le 6 avril dernier.
6 points et demi de plus, donc, pour Marine Le Pen. Comment expliquer ça ?
Eh bien, pour deux raisons. D'abord, elle continue de bénéficier d'un effet vote utile. En clair, c'est elle qui incarne aujourd'hui le mieux l'opposition à Emmanuel Macron. Si on regarde les deux candidats dont elle est le plus proche politiquement, c'est-à-dire Éric Zemmour et Valérie Pécresse, ils diminueraient leur score, moins 2 points pour Éric Zemmour, quasiment moins 2 également pour Valérie Pécresse. Et puis deuxième raison, Marine Le Pen a particulièrement bien soigné l'arrivée de son groupe de 89 députés à l'Assemblée, et il semble que sa stratégie de normalisation, d'institutionnalisation, eh bien, porte aujourd'hui ses fruits.
Un mot peut-être sur la gauche, quand même, avec Jean-Luc Mélenchon qui lui, alors pour le coup, dégringole.
Oui, 4,5 points de moins selon ce sondage. Alors, il reste sur le podium en troisième position, mais en recul. Ça veut dire d'abord qu'il n'a pas réussi à surfer sur les récentes grèves dans le pays, alors qu'il était lui-même, on en a parlé ici, à l'origine d'une grande marche contre la vie chère il y a 15 jours. Et puis, les Français semblent également lui faire payer sa gestion de l'affaire Quatennens. À noter, à l'inverse, que Yannick Jadot, lui, progresse dans ce sondage, plus 1,4 points. Il passe devant Éric Zemmour et Valérie Pécresse.
Merci Thomas Després. On ajoute quand même qu'il y a aussi un sondage pour le deuxième tour, et que si le deuxième tour avait lieu aujourd'hui,
Emmanuel Macron l'emporterait, c'est ce qu'on a dit, avec 53% des voix, là où à l'époque, il avait récolté en revanche 58,5 points, c'est-à-dire qu'il recule tout de même.
Merci Thomas Després. Louis Alliot, le maire de Perpignan, vice-président du Rassemblement National, candidat à la présidence du RN, était donc l'invité du grand jury, RTL, Le Figaro et LCI. En voici l'essentiel.
Si on veut gagner le pouvoir, il faut rassurer et pas inquiéter, et qu'on renonce à un certain nombre de points de programme, dont la priorité nationale. Tous les propos, toutes les mesures qui visent à inquiéter, telles qu'elles ont été portées par Éric Zemmour à la présidentielle, sont à bannir de notre logiciel politique. Ce n'est pas destiné à être en adéquation avec ce que nous pensons. Je pense que nous avons, nous, au Rassemblement National, un logiciel à nous-mêmes. La ligne qui gagne, c'est la ligne de Marine qui a été tracée. Et toute entreprise qui viserait à droitiser cette ligne-là ou à s'extrémiser sur un certain nombre de problèmes, je pense, serait vouée à l'échec. Ça, c'est ma conviction profonde. C'est celle qui m'a permis de gagner à Perpignan, qu'une de leurs mérites.
Vous pensez que Jordan Bardella se rapproche de ce que vous venez de souligner qui mènerait à l'échec dans
Monsieur
le mur.
Bardella suit la ligne de Marine et pas une autre. Donc pour l'instant, il n'a pas dit qu'il se sentait des affinités avec Éric Zemmour. Je crois qu'il a même dit le contraire récemment. Donc ce n'est pas un procès que je vais lui faire. En revanche, je sais très bien qu'il y a à la marge et à la périphérie du Rassemblement National des gens qui pousseraient à cette union des droites qui se résumerait à une alliance entre le Rassemblement National, Zemmour et quelques autres identitaires, et qui serait, je pense, de mon point de vue, vouée à l'échec.
Le MacPol, Vincent Parisot.
Voilà donc pour l'essentiel de ce grand jury de Louis Alliot, candidat à la présidence du Rassemblement National, et on y revient avec ses intervieweuses. Bonsoir Marie Mollet.
Bonsoir.
Pour RTL, évidemment. Amélie Carouère pour TF1 LCI.
Bonsoir.
Bonsoir. Marion Mour pour Le Figaro. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Marie-Pierre Haddad.
Bonsoir.
Pour RTL.fr. Il est bien loin, le temps des outrances, des provocations, des sous-entendus racistes. On a l'impression que Louis Alliot, il est un peu à l'image de cette campagne pour la présidence du RN, sans vague. C'est votre impression aussi, Marie ?
Bah oui, en fait, c'est toute la rondeur de Louis Alliot qu'il avait déjà mis en place pour gagner la mairie de Perpignan. Là, on l'a vu dans ce grand jury. L'immigration n'est plus la priorité. C'est quand même ce qu'il a dit pendant cette interview. Il parle plutôt de souverainisme, etc.
Il faut plus inquiéter.
On veut plus stopper l'immigration tout court, mais il s'agit de stopper l'immigration immigration illégale. En fait, c'est d'une part une stratégie qui revient de loin pour Louis Alliot. C'est lui qui est quand même l'un des concepteurs de la dédiabolisation. On l'appelait Loulou la purge hein, à l'époque, parce qu'il chassait les personnes qui eh bien, avaient éventuellement des propos antisémites, etc. Et puis, effectivement, c'est sa stratégie aussi dans ce congrès, sa différenciation par rapport à Jordan Bardella, qui, lui, fait des appels du pied aux électeurs d'Éric Zemmour, avec des propos qui reprennent un peu le grand remplacement. Sa différenciation à Louis Alliot, eh bien, c'est d'être justement d'être presque centriste par rapport au centre de gravité de sa famille politique. Voilà. Et on l'a bien vu pendant toute cette émission.
Et pas un mot plus haut que l'autre, et pas une attaque à l'égard de Jordan Bardella, son adversaire.
Ça rappelle quand même un peu le parcours de Robert Ménard. Moi, élu de terrain, j'étais à fond sur la question de l'immigration, mais le quotidien se rappelle à nous. Le pouvoir d'achat s'impose aux Français, doit donc s'imposer à nous. Et puis, l'autre point, c'est vraiment, plusieurs fois, il est revenu sur, en gros, Éric Zemmour a pris la barre du bruit et de la fureur. On voit que les Français n'en veulent pas. Nous, on a d'autres parts de marché à récupérer. Mais attention, parce qu'il dit voilà ce qui nous a mené au score de Marine Le Pen, etc. Mais certains vont dire aussi au sein du Rassemblement National, c'est cette normalisation qui flirte avec la banalisation qui empêche et empêchera Marine Le Pen de passer le cap supplémentaire.
Marion Bourque.
Je rebondis juste sur ce que vous disiez, pas une attaque vis-à-vis de Jordan Bardella. Je trouve que les attaques sont assez bien faites dans le sens où il ne parle que de Monsieur Bardella quand il ne fait, pendant l'émission, que référence à Marine. C'est Marine la chef, c'est Marine qui décidera et sera la candidate de 2027. Une manière de un peu circonscrire l'espace de Jordan Bardella, qu'il dit ne pas viser dans sa tribune qu'il a écrite il y a quelques jours dans l'Opinion. Et pourtant, quand on la détaille, tout en miroir donne l'impression qu'il le vise justement parce que c'est son concurrent à la présidence du RN.
Je vous arrête quand même parce que ça reste à fleurer moucheté tout ça. J'ai envie de dire, si on invite Éric Ciotti ou Bruno Retailleau, ça sera plus sanglant.
Ben justement, par rapport à ça, c'est assez marrant parce qu'il y a eu un commentaire d'un internaute qui m'a marqué pendant l'émission, qui dit, mais en fait, quand on écoute Louis Alliot, il pourrait être candidat pour la présidence des Républicains. Donc ça montre à quel point sa ligne n'est pas autant à l'extrême droite qu'elle aurait pu l'être. Sur l'écologie aussi, il n'est pas climato-sceptique comme l'a pu l'être Éric Zemmour, il reconnaît le réchauffement climatique. Et donc, en fait, il est plus en train de challenger les Républicains que l'extrême droite et Reconquête.
Merci Marie Mollet, merci Amélie Kawer pour TF1 et CI, Marion Bourque pour Le Figaro. Marie-Pierre Haddad, ne partez pas trop loin, vous revenez tout à l'heure pour l'agenda.
Vincent Parisot, le MacPol sur RTL.
À retenir également de ce dimanche, côté républicain, cette fois Bruno Retailleau, candidat à la présidence. La marque LR, la marque Les Républicains, est morte, dit-il dans le JDD. Il juge par ailleurs impossible une alliance avec Emmanuel Macron. Nous n'avons pas les mêmes convictions, dit-il. Autre dossier de ce MacPol, l'état des lieux après la tempête à Europe Écologie Les Verts. Julien Bayou, Sandrine Rousseau, les militants ont-ils fait un choix? La crise a-t-elle fait des dégâts? RTL a mené l'enquête. Bonsoir. Marie-Bénédicte Allaire.
Bonsoir.
Tout le monde se souvient de cette sortie de Sandrine Rousseau à la télévision. C'était sur France 5, une prise de parole qui a d'abord surpris tout le monde et qui a entraîné la chute du patron des Verts en, disons, 2 minutes chrono.
Oui, effectivement, mais vous savez, pas un des collègues de Sandrine Rousseau n'est fan de cette séquence. Eux, vous savez, ça ne les a pas vraiment étonnés de sa part parce que c'est sa façon d'être, mais tous s'en démarquent. C'est lourd de conséquences humaines, juge l'une. J'étais très mal à l'aise, dit un autre. J'aurais aimé qu'elle dise. Il y a une cellule qui s'occupe de ça dans le parti, ajoute une députée. Et plusieurs me l'ont dit. Une députée ne peut pas se comporter comme une présidente d'association et recueillir la parole de l'ex-compagne d'un collègue. Mais la sincérité de Sandrine Rousseau n'est pas mise en cause. Les violences faites aux femmes, c'est le combat de sa vie.
Donc pas vraiment convaincue par la méthode Rousseau. En revanche, Julien Bayou, ils le soutiennent.
Ce qui fait l'unanimité, encore une fois, chez les députés écologistes, c'est sa mise en retrait jugée nécessaire. Après, c'est beaucoup plus partagé. La façon dont Julien Bayou s'est défendu, il a parlé de maccartisme pour dénoncer ses accusatrices. Certains peuvent la comprendre, d'autres s'insurgent. Mais il utilise les arguments de tous les hommes accusés de violence, disent-ils.
Et justement, là, on est quand même au cœur du débat. Le féminisme et les écologistes. Le féminisme, c'est vraiment dans l'ADN des écologistes.
Mais oui, tout à fait. Et du coup, cette affaire les remue beaucoup. Où ça s'arrête? Il est évident qu'on doit mieux écouter la parole des femmes, mais ça ne veut pas dire renverser la domination. On n'a pas trouvé l'équilibre, s'interroge une jeune députée. Et plusieurs insistent. Les femmes en politique, Sandrine Rousseau notamment, mais pas seulement, sont encore attaquées violemment, beaucoup plus que les hommes.
Et alors, plus généralement, est-ce qu'on peut dire que Sandrine Rousseau les gêne? ou que Sandrine Rousseau les sert ?
Ben c'est 50-50. Ce que je regrette, c'est que ça écrase notre travail à tous, explique une novice en politique. La polémique sur le barbecue, elle a été comprise de travers, elle n'a pas fait avancer les consciences sur la viande, dit un autre. Une parlementaire chevronnée pense au contraire que la députée Sandrine Rousseau, hors des feux médiatiques, fait dans l'hémicycle des propositions pertinentes et offensives. En fait, le sujet, ce n'est pas tant Sandrine Rousseau et ses excès que l'absence de contrepoids. Ah, si Jadot et Rousseau avaient pu travailler ensemble, la présidentielle aurait peut-être marché, regrette un député. C'est à ça qu'ils veulent s'atteler, faire émerger une autre figure politique pour incarner l'écologie. Mais ça, ça ne se décrète pas.
Enquête MacPol, signée Marie-Bénédicte Allaire. Merci beaucoup. Une courte pause et puis dans un instant, dans le MacPol, une enquête criminelle autour d'un cadavre, celui du PS. A tout de suite.
Vincent Parisot, le MacPol sur RTL. RTL dimanche soir. Le MacPol avec Vincent Parisot.
Et l'invité du MacPol qui est Olivier Perroux. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous. Journaliste politique à l'Express, spécialiste de la gauche et auteur d'Autopsie du cadavre, publié chez Fayard. C'est sorti mercredi dernier. Alors, le cadavre, on l'a dit, c'est le Parti Socialiste. Et votre livre, c'est même plus qu'une autopsie, puisque vous présentez le cadavre et une série de suspects. Ils sont 7 soupçonnés de ce crime, à moins que ce ne soit une euthanasie d'ailleurs, hein, on verra. C'est presque une partie de Cluedo, hein, c'est pas Mademoiselle Rose, mais le parti à la rose. Qui a tué le PS et avec quelle arme ? Le PS est mort le 10 avril 2022 à 20h. Pour ceux qui sont jeunes ou ont la mémoire courte, on rappelle quand même que le PS a donné 2 présidents au pays, qu'il a longtemps dominé l'échiquier politique, les barons régionaux, un parti structuré qui faisait entre 20 et 30% des voix. 7 suspects, vous les désignez, ces 7 suspects ?
Oui, oui, alors il y a Anne Hidalgo, évidemment, la candidate, mais il y a aussi le patron du Parti Socialiste, Olivier Faure. Il y a évidemment l'ancien président de la République, François Hollande. Il y a ceux qui gravitent autour. Arnaud Montebourg, il a été socialiste. Il y a Christiane Taubira, qui a été candidate sur le Tard. Et il y a évidemment Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il a été au Parti Socialiste toute sa vie ou presque. Il est parti en 2008 et on sait très bien qu'il détestait le Parti Socialiste, donc ça faisait un coupable presque idéal.
Voilà, donc pour ces 7 suspects, si j'ai évoqué quand même la piste de l'euthanasie auparavant, c'est que la victime était quand même en très petite forme dernière présidentielle.
Oui, en très petite forme. Vous le disiez assez justement, pendant des années, la seule étiquette du Parti Socialiste suffisait au premier tour d'aller à 20-25% à n'importe quelle élection, y compris l'élection présidentielle. Il faut se souvenir, Ségolène Royal qui fait un très bon score au premier tour en 2007. Aujourd'hui, on a une candidate, rendez-vous compte, déjà en 2007, Benoît Hamon fait 6%, et là, elle fait moins de 2%. C'est terrible, c'est le pire score de l'histoire du Parti Socialiste.
Alors, 7 suspects, mais évidemment un seul assassin, même si tous ces suspects porte une part de responsabilité.
Bien sûr, il y en a un qui tient le couteau à l'évidence. Je tairai son nom, je vous invite à lire son livre.
Exactement, l'idée c'est pas de dévoiler, mais il fait partie des 7.
Voilà, ils ont tous mis leur pierre à l'édifice. J'aurais peut-être d'ailleurs dû appeler ça le bal des égaux, parce que qu'est-ce qui est mort au-delà d'un appareil politique ? Je pense que ce sont les idées. Aujourd'hui, le point commun entre tous ces gens, c'est qu'ils n'ont pas eu d'idée pour renouveler le logiciel socialiste.
C'est d'ailleurs ce qui frappe quand on lit ce livre. Hein, vous passez donc en revue ces 7 candidats au meurtre. Et ce qui frappe, c'est qu'il est quand même beaucoup question de dîner, de rencontres, de coups de fil, de SMS. Mais assez peu d'opinions, assez peu d'idées.
Et de détestation, de suspicion entre ses propres camarades. C'était un secret pour personne de savoir que Anne Hidalgo se méfiait d'Olivier Faure, que Olivier Faure voulait tout sauf un candidat du Parti Socialiste, parce qu'il pensait que c'était lui aussi l'heure de l'écologie. Il voulait se ranger derrière Yannick Jadot. C'était un secret pour personne que François Hollande n'aime pas le Parti Socialiste tel qu'il est devenu. Donc il voulait à la fois aussi intervenir. Et puis évidemment, Christiane Taubira qui a cru en sa bonne étoile, ou Arnaud Montebourg qui était convaincu lui aussi d'incarner une espèce de nouveau socialisme.
Alors on va pas donner le nom du coupable, mais l'assassin, est-ce que d'après vous, il ne mise pas quand même sur un fait historique qui est que le PS, ou plutôt le socialisme, il est quand même déjà mort 3 fois avec la scission en 1920, avec celle de 69 et ensuite avec 71, Mitterrand qui met la main sur le parti.
Les partis meurent, je crois que les idées ne meurent pas. Ouais. Aujourd'hui, le socialisme français, c'est deux jambes. Ouais. C'est une jambe radicale et une jambe réformiste. Et aujourd'hui, il n'y a personne. François Hollande avait fait la synthèse entre ces deux jambes. Aujourd'hui, il n'y a personne qui incarne et qui fait cette synthèse. Il y a Jean-Luc Mélenchon, la jambe radicale du socialisme, et il y avait François Hollande, la jambe social-démocrate réformiste du socialisme. Et aujourd'hui, qui est là pour incarner et rassembler ces deux jambes.
L'assassin, on ne va pas le nommer, on va peut-être juste dresser son portrait. Il croit qu'il a une chance pour la prochaine présidentielle.
Il n'abandonnera jamais. Il est convaincu d'être le dernier des socialistes et donc il pense qu'il n'y aura que lui à la fin.
Bon, eh bien, on a une petite idée du personnage et le reste, c'est à lire. Olivier Perroux, Autopsie du cadavre. Le livre est sorti mercredi, c'est publié chez Fayard. Merci beaucoup.
Merci.
On termine avec vous, comme chaque dimanche, Marie-Pierre Haddad. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il y a dans l'agenda du MacPol ?
La semaine qui commence va être décisive pour les Républicains et le Rassemblement National. Je commence avec les Républicains. Jeudi, ce sera la dernière ligne droite pour les quatre candidats pour la présidence du parti. Éric Ciotti, Bruno Retailleau, Aurélien Pradier et le maire d'Orléans, Serge Grouard, pour déposer leur parrainage. Ils ont jusqu'à 18h, dernier délai. Il leur en faut 485 de militants, à jour de cotisation bien sûr, et au moins 10 de parlementaires. Et tout ça va bien au-delà juste d'une règle administrative. Ces parrainages sont un premier point d'étape dans la bataille pour prendre la tête du parti. Et ils donneront une indication sur le poids de chaque candidat au sein des Républicains. Et quand ce sont les militants qui votent, évidemment, ça a toute son importance. Cette semaine, les militants du Rassemblement National, eux, votent pour désigner le successeur de Marine Le Pen. On en a parlé avec lui à Lyon tout à l'heure. Et le suspense devrait prendre fin samedi prochain. Pourquoi samedi ? Eh bien parce que c'est la date du congrès du parti et le gagnant tout juste élu prendra la parole pour la première fois. Le parti, lui, est face à un moment charnière et la première mission de Jordan Bardella ou de Louis Alliot sera de ramener le cœur du réacteur au sein du parti et d'en refaire vraiment un lieu de prise de décision stratégique. Parce qu'actuellement, c'est plus au sein du groupe RN à l'Assemblée que tout se décide.
Merci Marie-Pierre Haddad et bien évidemment l'élection du président du Rassemblement National. On en parlera dimanche dans le MacPol au lendemain de ce scrutin. Il est quasiment 7h-10. On va marquer une courte pause. Et dans un instant, Alain Bougrain-Dubourg va nous rejoindre pour refaire la planète. À tout de suite.
Les Paris RTL. On refait la planète. On refait la planète. Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parisot.
On refait la planète. C'est tous les dimanches soirs sur RTL avec Alain Bougrain-Dubourg, que je salue évidemment. Bonsoir Alain.
Bonsoir Vincent.
Et chaque émission commence avec un son de la nature qu'on doit tenter de découvrir. Mais vous nous donnez un indice.
Ouais, alors là c'est assez facile. Oui. Il peut boire 130 litres en 10 minutes.
C'est de l'eau, on est bien d'accord.
C'est de l'eau. Bon, si c'était de la bière, c'était vous.
Si c'était de la bière, on avait une idée. Mais c'est de l'eau. Il peut en boire 130 litres en 10 minutes et on l'écoute. En santé. Bon, on a une petite idée quand même. Oui. On a une petite idée et on la donnera à la fin de l'émission.
On refait la planète sur RTL.
Alors Alain, aujourd'hui, vous voulez mettre à l'honneur une association qui s'appelle Pépin Productions et dont le but est de revégétaliser les villes avec des pépinières de quartier.
Oui, c'est une association qui s'investit depuis 5 ans à Paris pour commencer, mais aussi en Ile-de-France ou encore à Marseille, en installant des pépinières où l'on cultive de jeunes plants qui seront ensuite redistribués dans les écoles, les balconnières, les potagers ou bien sûr les jardins partagés. Axel Verdier de Pépin Productions.
Il y a différentes étapes de production, le semis, la division, la bouture. Et donc, on remet les gens en connexion avec le cycle du vivant, en faisant participer les habitants aux étapes de production et de réappropriation et de compréhension du cycle de vie végétale. En même temps, on forme des gens et on les réintègre à l'emploi.
Donc, dans ces pépinières de quartier, mais quel genre de plantes peut-on y trouver ?
Nous, on est à la naissance du jardin, en proposant donc une multitude de végétaux, de plantes comestibles, ornementales, aromatiques, des plantes de service qui sont complémentaires les unes les autres pour promouvoir, pour favoriser, soutenir la biodiversité en ville. Voilà, c'est très important, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur.
Et ce qu'il faut savoir, Vincent, c'est que chaque année, l'association Pépin Productions propose un thème particulier.
Cette année, on s'intéresse au voyage des plantes. L'idée, c'est vraiment de faire prendre conscience à notre public, jardiniers avertis, ou bien simplement des badauds qui passent, enfin toutes les personnes, sur la manière dont finalement les plantes se déplacent à travers la dissémination de leurs graines, à travers l'histoire des hommes, à travers les chaussures, grâce aux animaux, et donc faire prendre conscience de tout ça pour mieux jardiner le vivant.
Voilà, donc Axel Verdier de Pépin Productions dont vous vouliez nous parler aujourd'hui et qui contribue donc à la revégétalisation des villes. Alors Alain, depuis maintenant quelques semaines, on part à la chasse aux idées reçues et notamment celle qu'en hiver, il est préférable de ne pas ouvrir la fenêtre pour pas gaspiller le chauffage. C'est logique.
Oui, c'est logique, mais c'est faux.
Ah bon ?
Voilà, c'est pas recommandé par l'ADEME qui est formel. Il est important de renouveler l'air du logement tous les jours. Elle recommande même d'aérer les pièces 5 à 10 minutes pour évacuer l'humidité en excès ou les odeurs désagréables. Alors, un conseil pour ne pas perdre trop de chaleur pendant la durée d'aération, il faut tout simplement éteindre les radiateurs ou les convecteurs situés sous les fenêtres.
Voilà, on fera quelques économies comme ça. Merci. Un événement à ne pas manquer, Alain.
Je vous invite à rejoindre Ménigoutte dans les Deux-Sèvres pour son incontournable festival animalier qui projette une quarantaine de films du monde entier. Alors souvent en présence des réalisateurs, mais ce festival, c'est aussi des stands, des associations de protection de la nature, des expositions d'art animalier, des débats, des sorties nature, etc. C'est la 38e édition qui se déroule jusqu'au 1er novembre inclus, à ne pas rater.
Eh bien, on ne ratera pas.
On refait la planète sur RTL.
Allez Alain, on conclut l'émission comme chaque semaine avec notre son mystérieux de la nature. L'indice que vous nous aviez donné, gros buveur.
Ouais, gros buveur. 130 litres en 10 minutes.
130 litres en 10 minutes, on l'écoute. On l'imagine là, avec la langue qui sort,
qui sort, oui.
On l'a reconnu, c'est le chameau.
Voilà, c'est le chameau, ouais. Dont je rappelle qu'il
donc
a deux bosses.
Donc c'est pas le dromadaire.
Voilà,
hein.
Le dromadaire, c'est une bosse. Ouais. Et c'est vrai que c'est le roi des records. Il peut rester une semaine sans boire, parcourir 60 km par jour, vivre 60 à 70 ans. C'est un animal fascinant.
Fascinant comme les oiseaux, évidemment. Je rappelle que vous êtes le président d'honneur de la Ligue de protection des oiseaux et que vous publiez le dictionnaire amoureux des oiseaux chez Plon. C'est un travail d'une vie, ça.
Oui, mais ce sont des êtres tout à fait séduisants qui m'inspirent l'humilité, qui m'inspirent l'admiration, qui m'inspirent l'amour et tant d'autres choses. Donc voilà, j'ai vagabondé à travers tous ceux qui ont aimé les oiseaux. Et ça va de Maurice Genevoix à tant d'autres, à Léonard de Vinci, en passant par les oiseaux eux-mêmes. Voilà, le martinet, par exemple, qui dort dans le ciel.
Ah, le martinet qui ne peut pas tomber au sol.
Ben, surtout, il dort dans le ciel.
Il dort dans le ciel.
Il ne se pose à terre dans sa vie que pour donner la vie, pondre des œufs et après il regagne le ciel.
Quel drôle d'oiseau c'est Alain Bougrain-Dubourg. On le retrouvera la semaine prochaine. En attendant, on va se régaler avec son dictionnaire amoureux des oiseaux. Merci Alain, un dimanche.
Merci.
On refait la planète sur RTL.
Et dans deux minutes, sur RTL, dans RTL Dimanche Soir, on s'informe avec Nathan Bocard. A tout de suite.
RTL Dimanche. RTL.
19h.
RTL Dimanche Soir avec Vincent Parisot.
Puisqu'il est 19h, un nouveau journal, il est signé Nathan Bocard. Bonsoir Nathan.
Bonsoir Vincent, bonsoir à toutes et
à tous. À la une, un deuil difficile dans le Lot.
Une semaine après la mort de Justine Vérac, vous entendrez l'émotion, la peine à Thoriac, village d'origine de la jeune femme. Que s'est-il passé à Séoul? 153 personnes ont perdu la vie dans un mouvement de foule hier. Les autorités coréennes cherchent des responsables. Et puis les Brésiliens à l'heure du choix, un nouveau mandat Bolsonaro ou le retour au pouvoir de Lula. Reportage dans les bureaux de vote de Rio.
Et puis après ce journal, comme chaque dimanche soir, on va refaire le sport avec vous Isabelle Langer. Bonsoir Isa.
Bonsoir, des invités de prestige ce soir. Cédric Pioline, le directeur du Rolex Paris Masters. Vous savez qu'on est à la veille du tournoi qui débarque demain. Un plateau de stars, hein, Novak Djokovic, le tenant du titre, Rafael Nadal, le jeune papa, le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz. Et puis on sera aussi également en ligne avec Jean Galfione, le champion olympique de saut à la perche, qui prendra le départ la semaine prochaine de la Route du Rhum.
Sacré plateau, on refait le sport à 19h15 sur RTL.
Et puis, la météo, c'est avec vous Valérie Quintin. Demain, lundi, les températures restent douces, mais malheureusement, le soleil disparaît peu à peu.
On va avoir un ciel passablement nuageux, c'est vrai, à l'ouest et dans le nord du pays, avec quelques averses, des Hauts-de-France jusqu'à la Bretagne et en glissant jusqu'à l'Aquitaine, avec des vents qui vont se renforcer au fil des heures, notamment dans la nuit de lundi à mardi. Plus on va aller vers l'est et plus on trouvera du soleil demain, avec quand même une incursion nuageuse dans Languedoc-Roussillon et quelques averses sur le relief. Notez qu'il y aura toujours du mistral dans la vallée du Rhône à 70 km/h en pointe et un vent de sud très fort dans la soirée sur le relief pyrénéen. Les températures demain matin vont baisser un tout petit peu, pas trop. Comptez 9 degrés à Grenoble au réveil, 13 degrés à Brest, 14 à Paris, 17 à Toulouse. Dans l'après-midi, 17 degrés à Cherbourg, 20 degrés à Lille et à Paris, 21 degrés pour Nancy, 22 degrés à Lyon et Montpellier et 24 à Limoges et Bastia.
Merci beaucoup Valérie Quintin.
RTL dimanche soir.
L'émotion donc et le silence pesant dans le village de Thoriac une semaine exactement après la disparition de Justine Vérac.
La jeune femme de 20 ans dont le corps a été retrouvé jeudi près du domicile du principal suspect, Lucas, agriculteur de 21 ans, a reconnu l'avoir tué. Il a été mis en examen pour meurtre, viol et séquestration. Maxime Lévy, vous vous êtes rendu pour RTL à Thoriac dans le Lot, commune d'origine de Justine, et c'est un village en deuil ce dimanche, Maxime.
Oui, ce dimanche, le village de Thoriac était comme au ralenti. Les habitants sont toujours dans le recueillement. Ce matin, la messe de 11h avait lieu dans le village voisin de Bretenoux. Le père Jean-Baptiste a eu un petit mot pour Justine hier. Il célébrait une messe à Thoriac. Une de ses homélies, de ses discours, était dédiée à la jeune femme.
Je ressentais dans l'assemblée une profonde émotion. Ils ne connaissaient pas nécessairement Justine, mais c'était une fille du village qui habitait leur village. On ne peut que se laisser toucher, que se laisser émouvoir par une telle situation. Le temps n'est pas dans ces grands discours qui peuvent être maladroits. Ayons un silence habité, bien sûr, un silence recueilli. Et c'est peut-être ce dont les proches ont besoin, d'être là, mais dans une certaine sobriété.
Le recueillement dans le village continue également au pied de la mairie de Thoriac. S'ils étaient moins nombreux aujourd'hui, les habitants apportent toujours des fleurs, écrivent un mot en hommage à Justine. Sur le livre de condoléances, on peut y lire toute l'émotion d'un village. Une phrase marque particulièrement « Nous t'aimons et nous t'aimerons toujours dans nos cœurs. Tu n'as jamais disparu. »
Un reportage à Thoriac dans le Lot signé Maxime Lévy pour RTL.
Une famille retrouvée morte dans leur maison du Finistère à Carantec près de Morlaix. Les corps d'une femme de 38 ans et de deux fillettes de 9 et 12 ans ont été découverts dans des chambres. Le père, âgé de 40 ans, a lui été retrouvé pendu. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte.
À l'évidence, dans les Deux-Sèvres, le combat continue puisque des milliers de manifestants s'opposent toujours aux méga-bassines.
Ils dénoncent un accaparement de l'eau et veulent reboucher ces réserves destinées à l'agriculture. Après un samedi marqué par des affrontements avec les forces de l'ordre, les militants prennent racine aujourd'hui. Ils étaient 2000 près du campement à proximité. Ce soir, Gérald Darmanin annonce le maintien de 1000 gendarmes sur place. Il appelle à ce qu'aucune ZAD ne s'installe.
La Corée du Sud a bien du mal à comprendre au lendemain d'un des pires drames de son histoire récente, 153 morts dans un mouvement de foule.
Et parmi les victimes, un Français a perdu la vie, information confirmée par le Quai d'Orsay cet après-midi. L'accident s'est produit hier lors d'une fête d'Halloween. Des milliers de personnes massées dans des rues étroites de la capitale lorsqu'une bousculade monstre a éclaté. Bonsoir Philippe Dauvin.
Bonsoir Nathan, bonsoir à tous.
Vous êtes correspondant RTL en Asie. Philippe, 24 heures après ce drame, l'heure est maintenant à la recherche des responsabilités.
Oui, toute la journée, des familles se sont rendues dans les morgues des hôpitaux de Séoul, réquisitionnées pour reconnaître le corps d'un enfant, d'un ami, d'un proche, identifié parmi les victimes. Des familles décimées, brisées par le chagrin, mais des familles qui s'interrogent et exigent aussi des réponses à leurs questions. Pourquoi les forces de police étaient-elles en sous-effectif alors qu'il ne faisait aucun doute que cette première célébration d'Halloween à Séoul, après la pandémie, attirait de très très nombreux jeunes dans ce quartier festif d'Itaewon? Pourquoi aucun système de filtrage pour contrôler et limiter le nombre de participants en raison de l'exiguïté des rues du quartier n'avait été mis en place? Pourquoi les secours ont-ils eu autant de difficultés à intervenir sur le lieu du drame? Des questions auxquelles la commission d'enquête créée par le président sud-coréen devra répondre dans les plus brefs délais. Ce soir, à la veille de la date officielle d'Halloween, les villes asiatiques de Hong Kong, où une catastrophe similaire avait fait 20 morts en 1993, et Tokyo ont renforcé les mesures de sécurité et de prévention dans leurs quartiers respectifs de Lan Kwai Fong et Shibuya.
Les précisions de Philippe Dova, correspondant RTL en Asie. On l'apprend ce soir, 60 personnes ont perdu la vie en Inde dans l'effondrement d'un pont. Une opération de secours est en cours actuellement dans l'état du Gujarat.
On marque une courte pause à 19h06, ensuite on sera au Brésil, à Rio, pour le deuxième tour de la présidentielle avec ce choix pour les électeurs, Bolsonaro bis ou Lula, le retour. A tout de suite.
RTL dimanche soir. RTL dimanche soir avec Vincent Parisot.
Et une question dans votre journal, Nathan Bocard. Le Brésil va-t-il tourner la page Bolsonaro? En tout cas, le suspense va prendre fin bientôt, dans la nuit.
Car depuis midi, heure française, plus de 150 millions de Brésiliens sont appelés aux urnes. Deuxième tour de l'élection présidentielle. Face à eux, un choix, un nouveau mandat du sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro, ou le retour de Lula, le candidat de la gauche qui avait déjà occupé le poste jusqu'en 2010. Reportage ce soir dans les bureaux de vote à Rio, où deux visions du Brésil s'affrontent. Sara Cozzolino.
Oui, dans le quartier de Flamengo, Sonia, la cinquantaine, est venue voter en portant des autocollants du parti de Lula.
Je pense que l'actuel président est un psychopathe qui ne pense qu'à lui. Il ne pense pas au peuple, mais seulement à son clan.
À 18 ans, Ana Carolina soupire quand elle passe devant cette électrice de Lula. Elle est venue voter Jair Bolsonaro avec une Bible à la main juste avant d'aller à l'église évangélique.
Bolsonaro est une personne transparente. Entre les erreurs, les réussites, on voit surtout son intégrité. Et puis les chrétiens en faveur du conservatisme, c'est indispensable.
Un policier militaire surveille le bureau de vote et observe la scène. Pendant sa pause, il se confie.
Je travaille dans la rue depuis 15 ans et j'ai bien vu qu'au fil des années, le pouvoir d'achat a baissé. Lula est plus capable de gouverner pour le peuple que Jair Bolsonaro.
Mais dans un milieu où la majorité de ses collègues sont électeurs de Jair Bolsonaro, ce policier préfère ne pas donner son nom et ne pas exprimer son opinion au travail.
Reportage signé Sara Cozzolino, correspondante RTL au Brésil. Brésil où les résultats doivent tomber vers minuit, heure française.
Donc on devrait connaître le vainqueur de cette élection dans la nuit. Et bien sûr, le résultat sera largement commenté demain matin dans les éditions d'information d'RTL.
Et puis les céréales qui ne quittent plus les ports ukrainiens aujourd'hui. Blocus rétabli par la Russie en représailles d'une attaque de drones sur sa flotte en Crimée. Moscou avait pourtant signé un texte en juillet autorisant l'exportation des céréales ukrainiennes. Son retrait de cet accord fait planer de nouveau le spectre d'une crise alimentaire.
Il est 19h10, le foot, avec la suite et la fin, presque la fin, de la 13e journée de la Ligue 1. C'est Auxerre qui a ouvert le bal en début d'après-midi.
Et avec une victoire 1-0 des Bourguignons face à Ajaccio. Dans le reste du programme, match nul entre Brest et Reims, 0-0. Et entre Nantes et Clermont, un but partout. Monaco renoue avec la victoire en s'imposant 2-0 contre Angers. Et puis Rennes remonte sur le podium en triomphant face à Montpellier, 3-0. Les Rennais qui pouvaient être délogés par les Lorientais puisque les Merlus recevaient Nice à égalité de points. Mais Philippe Audouin, il semblerait que l'opération soit ratée pour les Bretons.
Exactement, c'est la fin de la belle série pour Lorient. Les Bretons battus 2-1 ce soir. Deuxième défaite seulement pour eux cette saison alors qu'ils restaient sur 6 victoires et 2 nuls depuis la fin du mois d'août. Et pourtant, Lorient a surclassé Nice dans les 25 premières minutes. Il y avait 1-0 d'ailleurs à la pause pour les Bretons. Mais ensuite, Attal et Laborde sur un tir dévié à 20 minutes de la fin ont renversé le match, 2-1, score final donc pour Nice face à Lorient, désormais 4e du classement.
Philippe Audouin en direct du stade du Moustoir pour RTL. Et puis l'affiche de la soirée, quelle affiche, le choc Lyon-Lille à suivre sur RTL avec toute l'équipe d'Eric Silvestro. RTL Foot, c'est à 20h. La Formule 1, enfin, ce soir. Et le Grand Prix du Mexique, Max Verstappen, qui était déjà champion du monde, n'a pas pour autant ménagé ses efforts en qualification. Il s'élance en pole position, talonné par les Mercedes de Russell et Hamilton. Côté français, à savoir Ocon s'élancera de la 10e place, Gasly de la 14e place. Extinction des feux, 21h.
Merci beaucoup. Quand vous dites extinction des feux, ça veut dire
les
début de la course. Les
lumières s'éteignent, garderont les lumières pour courir.
Je dis ça, faut comprendre, faut traduire. Merci beaucoup Nathan Bocard, mais évidemment on n'en a pas fini avec le sport. J'ai l'impression qu'on va beaucoup parler de tennis à quelques jours du début de...
Ah bah ça commence demain, il y avait les qualifs aujourd'hui, trois jours, Français.
Quelques heures, quelques
d'ailleurs,
heures.
D'ailleurs, se sont extirpés des qualifications. On sera avec Cédric Pioline, le patron du tournoi. On parlera de voile et de la route du Rhum avec Jean Galfionne. Et de ski, les mondiaux, vous savez, auront lieu en France à Méribel Courchevel en février. Et Perrine Pellen, légende du ski français,
Perrine Pellen
sera avec nous.
J'adore.